Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le texte est sorti le 9 mai dernier et n'a pas fait autant de bruit dans les médias que les scandales de pédophilie dans l'église. Il faut dire que Vos Estis Lux Mundi, le texte du pape François pour la gestion des affaires de pédocriminalité dans l'église, est un texte technique destiné à l'interne, pourrait-on dire. Un texte sur lequel il est bon de se pencher, car grande était l'attente des fidèles à ce sujet. Un texte qui marque une rupture, mais appelle d'autres développements, selon un certain nombre d'associations de victimes. Explication. Vos Estis Lux Mundi, le texte du pape François sur les affaires de pédocriminalité, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler au micro, Nicolas Senez, correspondant du journal La Croix à Rome, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes pour une fois à Paris, m'a-t-on dit. Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay et président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, qui nous rejoindra finalement un petit peu plus tard dans cette émission, et Capucine Malville, déléguée épiscopale à l'information du diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On va commencer avec vous, Nicolas, pour faire un décryptage de ce texte. J'ai eu un peu de mal à trouver un canoniste qui soit prêt à faire un travail de vulgarisation sur le sujet, pour des raisons probablement qui m'échappent. En tout cas, on est bien content de vous avoir. La première chose peut-être à rappeler, vous qui suivez pied à pied l'actualité du Vatican, que tout le monde ne suit pas avec la même finesse, c'est un texte qui fait suite tout simplement au sommet organisé à Rome en fin février dernier, qui avait réuni les présidents des conférences épiscopales. Est-ce que vous pouvez commencer par rappeler ce qu'a été ce sommet, Nicolas ?
Oui, c'était la volonté du pape François de rassembler tous les présidents de conférences épiscopales du monde pour une espèce de séminaire des cadres de l'Église pour les conscientiser sur ce problème des abus sexuels, parce qu'on sentait bien, en fait, à Rome, que ça faisait 15 ans qu'on donnait des directives sur les questions d'abus sexuels, mais que c'était des choses qui descendaient peut-être pas forcément au niveau des évêques, qui sont les premiers responsables. Donc l'idée était de dire, on les prend, on les amène à Rome, et là on leur fait rencontrer des victimes, on leur fait des conférences intensives qui comprennent bien ce problème des abus sexuels.
Alors il y a...
C'était ce côté que, effectivement, ils n'étaient d'une part pas bien au courant des procédures qui existent dans l'Église catholique sur ce que doit faire un évêque quand il est confronté à un cas d'abus sexuel. Donc on leur a rappelé, et puis on a identifié aussi un certain nombre de trous dans la procédure, de trous dans le filet qu'il fallait corriger, et c'est le but de ce texte qui est paru en mai.
Est-ce que vous pouvez aussi réexpliquer la méthodologie un peu du pape François ? Il me semble que j'avais lu une citation de lui disant, parce qu'il y avait eu un certain nombre de déceptions après le sommet, parce que suite au sommet, il n'y avait pas eu d'annonce directe, et le pape François, je crois, aurait dit, de toute façon, même si les médias attendaient à ce que je pende des gens en place publique, c'est pas ça qui aurait fait avancer l'Église. Expliquez-nous quelle était un peu sa philosophie de fond.
Le but, hein, c'était ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que ça fait 15 ans que l'Église édicte des normes et des règles sur ces questions d'abus sexuels, mais on s'aperçoit qu'elles ne sont pas appliquées par les évêques, dans les églises. Donc il y avait vraiment ce besoin de faire prendre conscience aux évêques dans le monde du véritable problème de ces abus sexuels, à quel point leur faire toucher du doigt la souffrance des victimes pour qu'ils se réveillent, hein, et qu'ils réagissent de façon, pas comme ils l'ont fait pendant des années pour beaucoup d'entre eux, en cachant, en relativisant, en protégeant d'abord le prêtre abuseur plutôt que la victime. Et donc c'était ça son but, et dire ça suffit, il faut maintenant appliquer ces normes qui sont héritées déjà d'ailleurs de Joseph Ratzinger, de Benoît XVI, qui a fait un travail assez important sur ce sujet-là. Mais voilà, on sentait bien que l'impulsion romaine ne suffisait pas si sur le terrain On n'avait pas conscience de l'importance du problème.
Alors, il y a eu, j'ai relevé entre autres une citation, Monseigneur Charles Skicluna, je crois, archevêque de Malte, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, secrétaire adjoint de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'était dans le journal La Croix, suite à la publication. Ces normes sont un signal très fort. Pour la première fois, l'Église a une loi universelle qui engage la responsabilité des évêques et permet de rendre des comptes. Tout le monde peut être soumis à une enquête. Je suis pasteur, je ne suis pas au-dessus de la loi. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nicolas, quelles sont les grandes mesures donc, qui ont été annoncées dans ce texte, donc Vos Estis Lux Mundi, vous êtes la lumière du monde.
Alors il y a deux, le texte est en deux parties. Il y a une première partie sur l'obligation de dénoncer les cas d'abus sexuels à l'autorité supérieure. C'est-à-dire que tout prêtre, tout évêque qui a connaissance de cas d'abus doit en référer à son évêque ou à Rome. Et il y a des sanctions qui sont édictés pour les cas de couverture. Il y a aussi l'obligation pour tous les diocèses de mettre en place des dispositifs clairs d'accueil du public pour recueillir les plaintes. Et puis, il y a une définition assez large de l'abus, parce que c'est l'abus sexuel sur mineurs et sur toutes les personnes vulnérables. Et donc, il y a effectivement une vision assez large, hein, puisqu'il dit que personnes vulnérables, c'est toute personne qui se trouve dans un état d'infirmité, de déficience physique ou psychique, de privation de liberté personnelle, qui occasionnellement limite sa capacité de compréhension, de volonté, ou en tout cas de résistance à l'offense. C'est-à-dire que vraiment, l'abus est envisagé de façon extrêmement large, et c'était cette volonté justement qui était apparue aussi au cours de ce sommet, de montrer que l'abus ne se limite pas à la question d'abus sur mineurs, mais est beaucoup plus importante que ça. Et puis le deuxième grand point, c'est effectivement une procédure interne à l'Église d'enquête, y compris sur les évêques. C'est-à-dire que l'évêque doit faire une enquête, mais si c'est l'évêque lui-même est mis en cause, ça revient à l'archevêque de la province.
Hein, le métropolite,
exemple,
c'est ça
tout, voilà, au métropolite, par exemple. Dans la région de...
Chez nous, Monseigneur Le Gall.
Chez vous, ça sera Monseigneur Le Gall, l'archevêque de Toulouse, hein, voilà, qui devra agir. Alors, en lien étroit avec Rome, c'est-à-dire qu'il y a des délais extrêmement, assez courts, hein, pour l'Église. On parle d'un mois pour ouvrir une enquête. Il doit en référer très vite à Rome. Une fois qu'il a ouvert l'enquête, il a 90 jours pour prendre une première décision. Donc, c'est des choses... voilà, il n'y a plus la possibilité de... qu'avaient certains évêques, on va dire, de faire traîner les choses, de faire lanterner. Non, là, il faut prendre une décision. Et puis, si, effectivement, il y a des... Parce qu'il peut y avoir des cas de dénonciation abusive, eh bien, si l'archevêque décide de classer l'affaire, il doit en référer au nonce en disant explicitement pourquoi il décide de classer l'affaire. Donc, tout ça, c'est vraiment des garde-fous qui sont mis pour aussi responsabiliser sur le terrain les gens qui sont en responsabilité.
Donc un guichet par diocèse pour les signalements, obligation de signalement et responsabilité des évêques. Est-ce que de manière plus précise, ou en tout cas en mettant ça en perspective, vous pouvez revenir sur ces points? J'entends par là que, à vous entendre, les bras pourraient nous en tomber d'entendre qu'il a fallu attendre la publication de ce motu proprio pour qu'il y ait une obligation de signalement, entre autres. Où sont les nouveautés, on va dire, radicales quand Monseigneur Charles Skicluna déclare ces normes sont un signal très fort et parle de première fois dans l'Église universelle? Où est la nouveauté?
La nouveauté, c'est qu'effectivement, jusque-là, il y avait une obligation, on va dire, morale qui existait, mais il n'y avait pas de sanction, il n'y avait pas de... ce que nous expliquait par exemple un évêque au moment de la présentation de ce texte. Et voilà, il y avait une obligation morale, mais il n'y avait pas une obligation légale. Et effectivement, ça permettait à un certain nombre d'évêques dans le monde peut-être de traiter plus légèrement, de faire lanterner ou de prendre le temps au détriment de la victime et de sa souffrance. Donc là, c'est vraiment de dire au cœur de ces affaires-là, il y a des victimes, il y a des victimes qui souffrent, et l'Église doit apporter une réponse à ces victimes, une réponse rapide. Et ça, c'était ce qui a beaucoup péché dans l'Église jusqu'à ces derniers temps.
Alors, à propos de réponse rapide, il vient une question. Vous avez cité les délais. Donc, un évêque doit tenir au courant Rome en certaines situations. Et les délais donnés sont très courts. Vous avez cité 30 jours. Il faudrait après que le travail soit conclu dans un délai de 90 jours. Est-ce que vous qui êtes à Rome, ne serait-ce qu'à Rome, on a les moyens en fait de traiter autant d'affaires et aussi rapidement? Est-ce que c'est une injonction qui se veut être un idéal comme sur d'autres sujets en France qu'on espérera atteindre un jour? Voilà, grosso modo, quelles sont les capacités de l'Église romaine à encaisser cet afflux potentiel de signalements?
Alors c'est justement pour répondre à l'afflux de signalements. C'est-à-dire, il y avait des dénonciations, mais jusqu'à présent, le système, c'était on fait remonter à Rome, et puis bien des évêques disaient, moi j'ai prévenu Rome, maintenant... Maintenant, Rome se débrouille. Il y avait une certaine déresponsabilisation quand même de certains évêques, attendant la réponse romaine. Ici à Rome, il y avait, à la Congrégation pour la doctrine de la foi qui traite ces questions-là, 1500 dossiers en souffrance. Donc même si le pape François a renforcé le bureau disciplinaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, cet engorgement était inquiétant. Donc là, c'est l'évêque qui a 30 jours pour mener pour ouvrir son enquête, puis 90 jours pour la mener, en faisant un rapport mensuel au Saint-Siège. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui est responsable en première ligne, sous la supervision du Vatican, qui vérifie simplement que l'enquête est bien menée, quitte après, pour les affaires les plus graves, à traiter lui-même le dossier. Mais voilà, ça permet une responsabilisation plus grande, alors qu'avant, effectivement, la tendance chez certains évêques était de dire « c'est bon, j'ai transmis le dossier à Rome, maintenant ça ne me regarde plus ». C'était un petit peu, oui, c'était une déresponsabilisation qui était inquiétante.
Alors, on posera la question à Capucine Malville, parce qu'on imagine que du coup, la charge va être lourde pour les évêques et les métropolites. Et la question est de savoir aussi s'ils ont les troupes. Je voulais juste profiter de votre présence, Nicolas, parce que vous allez nous quitter à la pause pour une dernière question. J'ai cru comprendre qu'il est resté en suspens une interrogation importante quant à la définition, en fait, de ces crimes. Vous avez dit que le document donner une définition très large des personnes vulnérables. J'ai lu par ailleurs que dans le droit canon, c'était toujours le rappel au sixième commandement qui était cité, tu ne commettras pas l'adultère, et que c'était une sémantique qui restait très vague. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet?
Alors, il y a deux choses. C'est qu'il y a d'une part le côté canonique, effectivement. Ceci dit, il y a ce qu'on appelle aussi le crime de sollicitation, c'est-à-dire le fait pour un prêtre dans le cadre de la confession, donc qui vraiment viole le secret viole la confiance que lui fait le fidèle qui vient se confesser à lui, alors même qu'il agit en personne du Christ. Donc pour l'Église, c'est vraiment un crime grave. Là, c'est vraiment des cas d'abus au sens large, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans l'adultère, puisque ça peut être des personnes qui ne sont pas mariées et tout ça. Donc l'abus est vraiment quand même, c'est vraiment le fait, je reprends les délits contre le sixième commandement, c'est accomplir des actes sexuels avec un mineur ou une personne vulnérable.
Ma question c'était, est-ce que ça demande précision quand on dit que cette sémantique est très vague, est-ce que ça demande précision ou pas?
Disons que ça ouvre la possibilité de poursuite, y compris pour des actes dont on pourrait se poser la question, voire même quelquefois pour des actes sur lesquels la justice civile aurait pu décider de classer l'affaire, par exemple.
Eh ben, merci beaucoup Nicolas Senet. Je rappelle donc la publication de ce texte était donc le 9 mai dernier. Vos Estis Lux Mundi, vous êtes la lumière du monde, avec donc trois grandes annonces afin de les avoir en tête avant de poursuivre cette émission. Un guichet par diocèse pour les signalements. Le guichet, je sais pas si le mot est le plus heureux. C'est celui que j'ai trouvé en tout cas dans un article de presse. Obligation de signalement et responsabilité des évêques. On va faire une courte pause musicale et puis on va vous retrouver, entre autres, Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay, président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, afin de faire un point sur l'action de l'Église ces dernières années.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
Emmanuel Pella.
Vos estis lux mundi, le texte du pape François sur les affaires de pédocriminalité, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église. De ce matin, était avec nous au début de cette émission Nicolas Sonnez, correspondant du journal La Croix à Rome. Nous a rejoint Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay, président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci de vous être rendu disponible et est avec nous toujours Capucine Malville, déléguée épiscopale à l'information pour le diocèse de Toulouse. Monseigneur Luc Crépy, merci donc d'avoir accepté cette interview, de vous rendre présent. Ma première question sera tout simplement, puisqu'il était invité au sommet en février dernier à Rome sur les affaires de pédocriminalité dans l'Église et les présidents, je crois, de conférences épiscopales, quel a été un peu le retour de votre président à ce sommet? Que vous a-t-il partagé de ce que les évêques ont entendu et vécu?
Écoutez, le Monseigneur Pontier, donc le président de la Conférence des évêques de France, lors de l'Assemblée des évêques à Lourdes, au printemps dernier, donc en mars dernier, nous a fait part un peu de tout ce qu'il a vécu. Je crois que ce qu'il a marqué, ça a été tous les jours, il y avait pendant cette session qui durait 4 jours, il y avait des témoignages de personnes victimes. Et donc je pense que ça a été pour un certain nombre d'évêques présents quelque chose de très important. Monseigneur Pontier lui-même a été touché par ces témoignages, mais c'est vrai que dans l'Église en France, cette question est déjà traitée dans la conférence depuis un certain temps. Donc je veux dire, l'apport était fort, mais il n'a peut-être pas touché autant que pour d'autres évêques qui, d'une manière ou d'une autre, découvraient un peu la force de ces témoignages de personnes victimes. Ensuite, il y a eu d'autres témoignages, avec entre autres des journalistes, avec des personnes très diverses. Et donc je pense que, d'après ce qu'il nous a dit, c'était quand même un temps très fort pour faire un peu le tour de cette question très grave, sensibiliser les uns et les autres, et puis dans le partage que les évêques ont eu entre eux, de présidents de conférences, donc, s'échanger beaucoup de choses sur ce qui se faisait là, ce qui se faisait ailleurs, sur ce qui était possible de mettre en œuvre. Donc je dirais que ça a été une expérience de l'Église universelle qui, à la suite aussi de la lettre du pape, il y a un an, qui a invité tout le peuple chrétien à se mettre en route dans cette lutte.
Lettre au peuple de Dieu.
Voilà, lettre au peuple de Dieu. Et bien, je crois que là, au niveau des présidents de conférences épiscopales, c'était aussi une expérience, je dirais, pour l'Église universelle, si vous voulez, de se mettre dans ce combat et dans cette prévention.
Monseigneur Luc Crépy, quelles étaient les mesures que la France peut-être portait ou appelait de ses voeux, et qu'est-ce qui vous a satisfait comme président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie dans les annonces, les principales annonces qui figurent dans ce motu proprio, je rappelle donc un lieu par diocèse pour les signalements, une obligation de signalement qui maintenant devient, on va dire, une obligation plus seulement morale mais légale, et la responsabilité des évêques.
Bah écoutez, moi toutes ces mesures me satisfont fortement, parce que c'est des choses pour une part qu'on avait déjà commencé à mettre en France. Je parle en particulier des cellules ou des structures d'accueil ou d'écoute dans les diocèses de France. Deuxièmement, tout un travail a été fait à la conférence quand même depuis plusieurs années sur la responsabilité des évêques dans à la fois la prévention, bien sûr, mais aussi dans la dénonciation d'abus qui seraient commis par des membres du clergé. Et donc ce motu proprio vient cadrer de manière très précise et forte toutes les mesures qui sont à mettre en œuvre quand, par exemple, un évêque reçoit les confidences d'une personne victime et dénonce tel ou tel clerc qui aurait commis des abus. Il y a une procédure très claire qui rejoint celle que nous mettons déjà en œuvre depuis 2-3 ans, mais je pense que le fait que ce soit inscrit dans les textes officiels de l'Église universelle, cela donne encore plus de poids à cette responsabilité des évêques et à ce devoir d'œuvrer dans la lutte et dans dans les mesures qu'il faut mettre en œuvre quand il y a un crime commis par tel ou tel clerc.
Monseigneur Luc Crépy, c'est vrai que pour les fidèles, il y a, on imagine que c'est peut-être le cas de certains auditeurs, il y a quelque chose qui apparaît, qui semble difficile à comprendre, c'est que les évêques en fait auraient été avant dans une sorte de d'irresponsabilité ou de possibilité d'impunité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ?
Écoutez, je crois que les affaires qui sont sorties depuis plusieurs années ont montré que, de fait, il y a eu, de la part de responsables d'église, soit une volonté de cacher des choses. On a vu, je pense au film Spotlight, par exemple, aux États-Unis, qui était un des films un peu déclencheurs des affaires. Je crois qu'il y a eu aussi, on peut vous parler d'irresponsabilité. Je crois qu'il y a eu des manquements graves de la part d'un certain nombre de responsables d'église face à ces situations où il fallait, d'une part, prendre des sanctions vis-à-vis des clercs, prendre des mesures aussi, bien sûr, de prudence et des mesures de précaution. Et donc, je pense que ce motu proprio est quelque chose qui rappelle alors, d'une certaine manière, de manière très claire et très précise.
Mais Monseigneur Crépy, ça veut dire juste qu'avant, en fait, il n'y avait pas d'obligation légale pour les évêques de rendre compte de leurs actions. C'est là, en fait, la différence fondamentale. Avant,
alors, dire ça. Je pense qu'il ne faut pas généraliser pour tous les évêques, bien sûr. Hein. Je pense qu'il y a un certain nombre d'évêques qui ont pris leurs responsabilités de manière claire et précise. Mais de fait, il y a eu des cas où des évêques n'ont pas...
Ma question, c'est sur le droit en fait interne de l'Église, Monseigneur. Ma question, c'est sur le droit interne de l'Église. Que prévoyait le droit interne de l'Église sur ce sujet?
Le droit interne de l'Église prévoyait condamner, bien sûr, tous ces actes. Et il y avait des sanctions qui étaient prévues. La question, c'est de faire appliquer le droit. C'est ça, la question. Ce motu proprio vient renforcer des mesures de manière qui existait déjà dans le droit canonique, mais vient les préciser et les renforcer pour un certain nombre d'éléments. En particulier, les délais, vous voyez, vous avez 6 mois pour faire les choses, vous devez saisir tout de suite la congrégation pour protestante la foi, vous devez ouvrir un procès canonique. Donc, je veux dire, le droit canonique disait déjà qu'il y avait des choses à faire quand un prêtre était accusé d'abus sexuel. Il y avait des sanctions canoniques qui étaient prévues. Mais là, les choses sont encore plus claires et plus précises, je dirais.
Alors, avant qu'on regarde quelles ont été les critiques ou les réserves des associations suite à ce sommet de février dernier et puis à la publication de ce motu proprio, je voudrais quand même faire écho aux conclusions de la mission d'information du Sénat sur les infractions sexuelles qui avait fait suite à l'appel donc du magazine Témoignages Chrétiens qui ont été rendues donc en mai dernier, dans lequel la présidente de cette mission d'information du Sénat, la sénatrice Catherine Deroche, donc pour les Républicains, donne un satisfecit à l'Église, laissant entendre que s'il y a eu la prise de conscience a mis du temps, je cite, elle est bien réelle du côté de l'Église. J'imagine que vous avez été heureux que, pour une fois, les pouvoirs publics saluent le travail que l'Église a fait.
Tout à fait. J'étais moi-même membre de la commission qui a été auditionnée par le Sénat. Et donc, j'avais trouvé que lors de cette audition par le Sénat, nous avions pu exposer les choses de manière, je pense, assez précise et que nous avions aussi reçu une écoute de la part des sénateurs et des sénatrices qui nous avaient accueillis. J'avais été très heureux de cette rencontre avec les sénateurs et les sénatrices. Et de fait, je suis heureux que les pouvoirs publics reconnaissent que l'Église a tracé un chemin dans ce domaine, mais il ne faut pas s'arrêter là maintenant. C'est pas parce que il y a eu ce satisfecit, si vous voulez, qu'il faut arrêter les choses. Il y a encore beaucoup d'étapes à faire, je pense.
Alors parlons justement des réserves ou des questions qu'ont posées, voire des critiques qu'ont posées un certain nombre d'associations. Pour elles, qui restent en suspens, alors vous me direz que c'est pas l'objet du motu proprio, la question de la réparation financière, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Où en sont les évêques sur cette réflexion? Vous citiez tout à l'heure le diocèse de Boston, aux États-Unis, qui pour le coup a largement indemnisé les victimes.
Écoutez, nous ne sommes pas dans le même système que les systèmes américains, nous sommes plutôt dans le système européen. Donc vous savez qu'en novembre dernier, les évêques ont créé une commission sur cette question-là. En Europe, cette question a déjà été abordée et mise en œuvre par la Belgique, par l'Allemagne, par la Suisse, par l'Autriche. Et donc les évêques de France s'inscrivent dans la ligne un peu de ces églises pour voir comment, de fait, peut-être signifier de manière très précise par un geste financier la reconnaissance que ces personnes ont été bien victimes d'abus par un membre de l'Église. Donc il y a une commission qui est en route et qui travaille sur cette question-là.
Et a priori, il y a des délais sur ce sujet? C'est-à-dire que vous comptez apporter une réponse d'ici une date précise?
Qui vont être faites.
Pardon, est-ce que j'ai pas entendu votre réponse sur le délai?
À la prochaine assemblée plénière, donc en novembre, la commission rendra compte de son travail.
D'accord. L'autre question que posent les victimes, et j'aimerais que vous nous éclairiez là-dessus, c'est la question de la réparation liturgique, ai-je lu. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors là aussi, il y a une autre commission qui a été créée pour un travail mémoriel, qui réfléchit justement comment peut s'inscrire d'une manière concrète et précise quelque chose qui est de l'ordre, qui rappelle dans la mémoire de l'Église ces faits, qui rappellent que des victimes ont souffert, que des victimes ont vécu des choses terribles. Et donc il y a une recherche pour savoir quel geste mémoriel peut être fait. Vous savez que le pape lui a demandé que tous les ans, il y a une célébration hein, qui soit faite avec demande de pardon. Il y a pas mal de diocèses qui font ça. Mais on est dans une réflexion sur ce sujet-là. De toute façon, c'est des réflexions qu'on va mener aussi avec les personnes victimes. Hein. C'est, les évêques vont ces commissions travaillent aussi. Voilà, quel devoir de mémoire nous avons par rapport à ça.
Alors, à propos justement de cette réflexion avec les associations de victimes, c'est vrai que quand on lit la presse et qu'on n'est pas aussi informé que vous, on lit des choses contradictoires un peu sur le sujet. Par exemple, on lit qu'une victime qu'on a reçue à cette antenne, Véronique Garnier, est déléguée épiscopale à la protection de l'enfance et des personnes vulnérables pour le diocèse d'Orléans, si je ne me trompe pas. Donc, certaines victimes sont impliquées. Et puis, l'association La Parole Libérée, elle, on l'entend beaucoup, considérant que les victimes ne sont pas encore au cœur du dispositif en France de lutte contre les affaires de pédocriminalité. Alors, quid de la place des victimes dans votre travail, dans votre réflexion, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous comptez développer ?
Alors, je rappellerai qu'à l'Assemblée de Lourdes en novembre dernier, il y a eu une rencontre avec des personnes victimes hein, et les évêques. Donc ça, je pense que il s'est passé des choses fortes hein, lors de ces rencontres. Moi, personnellement, je fais souvent des journées de travail de prévention et d'information. Et en général, je travaille avec des personnes victimes. Quand nous faisons ces journées-là, il y a toujours une personne victime avec qui... par exemple, j'étais à Saint-Brieuc il y a un mois. Et bien, j'étais avec Olivier Savignac, qui est aussi... dans une association de personnes victimes. Donc, quand j'ai fait la même chose au Puy, on a fait venir aussi une personne victime. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand on fait tout un travail de prévention, de formation auprès des acteurs qui, dans l'Église, travaillent auprès des jeunes, eh bien, on travaille, bien sûr, en collaboration avec les personnes victimes. Alors, bien sûr, il faut continuer cet effort. Hein. Peut-être que je comprends que si certaines victimes disent « Nous ne sommes pas assez au cœur du dispositif », mais je pense qu'il y a un véritable effort pour rencontrer les personnes victimes. Et les quatre commissions là, que nous avons mis en place en novembre dernier sur des sujets importants qu'on a évoqués précédemment, eh bien, ces commissions travaillent aussi avec des personnes victimes.
Voilà. Donc, ce qu'on entend derrière, en fait, leur interrogation ou leur demande, ouais. Ça serait de ne pas seulement être consulté, mais en fait d'avoir la main avec vous sur ce qui est fait. C'est ça, en fait, qu'est l'interrogation.
Oui, par exemple, quand nous faisons des journées de prévention, où bien sûr il y a une personne victime qui fait partie des intervenants principaux de ces journées, hein, eh bien, c'est un travail ensemble. C'est un travail ensemble. Quand on a des questions dans la salle, quand on aborde les questions, quand on réfléchit, quand on prépare la session, c'est une collaboration avec les intervenants et donc là où les personnes victimes qui interviennent. Voilà. Alors, sans doute faut-il prendre peut-être plus d'habitude sur ces questions-là, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font avec. Et puis, on parlait de la session à Rome là, en février dernier. Je crois que les personnes victimes ont été vraiment au cœur du dispositif de cette rencontre que le pape a voulu avec les évêques, vous voyez.
Monseigneur Luc Ripi, dernière question, c'est sur pour faire écho justement à la lettre du pape François, donc en août dernier, qui invitait donc à tout le peuple de Dieu à se mobiliser sur ce sujet, dans lequel le pape François a dénoncé entre autres donc ce fameux cléricalisme dont on a parlé pas mal cette année à l'antenne. J'ai lu donc une interview de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le futur président de la Conférence des évêques de France, qui lorsqu'il a été auditionné par le Sénat pour cette mission d'information, a rappeler justement le caractère systémique de cette crise, laissant entendre qu'il n'y avait pas qu'une question de droit canon, de procédure à mettre en place, mais que derrière il y avait une culture à changer. Alors est-ce que vous pouvez repréciser de quoi les évêques de France sont conscients aujourd'hui et quel est en fait l'objet de cette crise systémique ?
Bah, si vous voulez, derrière cette question des abus ou des agressions sexuelles, et une autre question, c'est l'exercice d'une toute-puissance qui a été exercée par des clercs sur des personnes. Une toute-puissance qui est liée à l'autorité que ces auteurs pensaient pouvoir détenir sur les personnes. Et donc, derrière cette question des abus sexuels, il y a la question de l'autorité. Qu'est-ce qu'est exercer une autorité quand on est prêtre religieux ? Et donc le cléricalisme, c'est un abus ou une emprise d'autorité sur les personnes, pas simplement dans le domaine de la sexualité, mais dans la manière aussi de vivre son service d'église. Comment, comme prêtre, soit je suis quelqu'un qui exerce une espèce de toute puissance sur les gens, ou est-ce que je suis un homme au service d'une communauté, dans un dialogue, dans une manière d'être celui qui est à l'écoute, ou est-ce que je suis quelqu'un qui se... dans une posture un peu sacrée, un peu toute puissance, et qui peut conduire à des abus d'autorité, y compris dans le domaine de la sexualité.
Mais Monseigneur Lecrépy, on comprend la définition, mais quid de la situation ? Est-ce que c'est un combat que les évêques de France sont prêts à mener, et si oui, pourquoi ?
J'ai envie de dire, dans beaucoup de diocèses, je parle dans le mien en particulier, ce que je viens de dire a suscité et suscite dans les paroisses des groupes de réflexion de parole sur cette question, finalement, de la manière dont l'autorité s'exerce et vécue dans l'Église. Vous voyez, dans deux jours, je vais invité par une paroisse où les chrétiens ont eux-mêmes dit, comment dans l'Église, les questions qui viennent de surgir là, sur toutes ces questions-là mettent en question ou interrogent la manière de vivre la co-responsabilité, la synodalité, le travail ensemble entre laïcs et prêtres, vous voyez. Donc ça, c'est très concret, parce que sur le terrain, il y a pas mal de choses qui se font dans pas mal de paroisses.
Eh ben, merci beaucoup, Monseigneur Lecrépy, d'avoir pris le temps d'être au micro de Vivante Église. Un grand merci à vous. On va faire une deuxième pause musicale, et puis on va retrouver Capucine Malville, déléguée épiscopale à l'information du diocèse de Toulouse, pour essayer de voir dans le détail, ce qu'un diocèse comme Toulouse a mis en place. Diocèse de Toulouse, il faut le dire, qui aura été précurseur en la matière, puisque sa cellule d'écoute a fait partie des premières qui ont été créé en France.
Thank you.
Radio Présence dans le Lauragais 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vos estis lux mundi, le texte du pape François sur les affaires de pédocriminalité, pardon, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Nous étions avec Nicolas Senez, correspondant du journal La Croix à Rome, Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay et président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie pour la conférence des évêques de France, et en plateau Capucine Malville, déléguée épiscopale à l'information pour le diocèse de Toulouse. Où Capucine, vous avez été fort discrète, j'aurais peut-être dû vous donner davantage la parole, mais au moins on a pris le temps d'écouter les uns les autres, et c'est souvent un reproche que l'on fait aux journalistes. Alors nous, on prend peut-être un peu le contre-pied en ne pensant pas peut-être assez la parole. Bref, je voulais commencer à propos du diocèse de Toulouse par une lettre qu'a publiée en avril dernier Monseigneur Robert Legall, archevêque de Toulouse et donc métropolite la région apostolique, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
De la région apostolique, où il commençait par ces mots du prophète Daniel: « À nous la honte au visage, parce que nous avons péché contre toi. » Et un peu plus loin, nous avons le sentiment d'être submergés par une marée nauséabonde qui semble se répandre partout. Vous qui accompagnez le métropolite et donc l'archevêque de Toulouse sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous partager ce sentiment que Monseigneur Legall a lui-même partagé avec ses fidèles ?
Je crois que Monseigneur Legall est comme chacun d'entre nous, hein, comme tout catholique, a assisté impuissant à la série de dénonciations, de mises en cause, les réalités de situations complètement inadéquates à l'évangile. Et ça l'a touché, blessé, ça l'a renvoyé aussi à peut-être ce qui avait déjà été fait, et à, en tout cas, la nécessité et la volonté qu'il avait pour le diocèse de mettre en place un système, des procédures, une atmosphère. Il parle souvent de maison sûre, une atmosphère pour que l'Église soit une maison sûre.
Voilà, il a utilisé une autre expression, c'était en mai, donc dans l'édito du diocèse. L'Église vit un temps douloureux de honte dans le désert. Elle vit une sorte de descente aux enfers à mériter. Les paroles sont fortes. Difficile de ne pas se reconnaître là-dedans. L'autre question introductive, c'était, j'ai retrouvé dans une interview du journal Marianne, à propos des prochaines ordinations, c'était début juin, on vous cite, le journal Marianne appelle le diocèse de Toulouse, et au bout du fil, le diocèse de Toulouse est perplexe. Quel sera le ton de votre article ? Je ne vous aurais pas posé cette question il y a un an et demi, mais les choses ont changé, on s'est pris coup sur coup, et vous ajoutez, c'est à ça que je voulais en venir, avant de poursuivre, le film de François Ozon, Grâce à Dieu, est terrifiant d'équilibre. Ça m'intéressait un peu d'avoir votre son de cloche et écho à cette remarque que vous avez faite. Donc c'est ce qu'on lit entre les lignes à cette journaliste de Marianne.
Alors, comme beaucoup de personnes et de catholiques, je suis allée voir ce film. J'avais suivi de manière attentive les affaires de Lyon et du père Prénat. Et j'ai trouvé sans doute une grande vérité historique, même si c'est romancé. Mais j'ai été frappée par deux points. Le premier, c'est ces victimes dont certains sont catholiques pratiquants, vraiment insérés à l'Église, dans l'Église, qui cherchent par tous les moyens à se faire entendre, et l'incompréhension de l'attente, en tout cas au niveau ecclésial. Et puis ce long chemin dans le désert et l'impression, vraie ou fausse, qu'il n'y a pas de prêtres, pas de religieux, pas de catholiques pour les accompagner. Et moi, c'est ce qui m'a le plus peiné, en fait. C'est pas... Oui, il y a eu des situations dramatiques et scandaleuses, mais en plus, ils portent le poids seuls et doivent lutter contre l'institution. Moi, c'est ça qui m'a...
Double peine, en fait,
double
quelque
peine,
part.
Double peine.
Est-ce que vous diriez aussi qu'il faut, en fait, voir ces films, et il faut presque avoir entendu, en fait, des témoignages de victimes pour que, justement, culturellement, l'Église arrive à intégrer et à comprendre, on va dire, dans sa chair et dans son cœur, ce que sont ces affaires. Souvent, il y a un avant et un après, et on a pu lire justement que maintenant, il faudrait quelque part, que ce soit pas les présidents de conférences épiscopales ou les gens de la cellule d'écoute qui entendent ces témoignages, mais de plus en plus de monde pour que, à l'intérieur de chaque communauté, on sache ce que c'est.
Je crois que c'est indispensable. C'est aussi indispensable parce que on le voit dans les parcours des victimes. Souvent, il y a des longs moments pour eux-mêmes d'amnésie. Donc, soudainement, il y a quelque chose qui revient et puis les gens se disent, bah, s'il l'a oublié pendant toutes ces années, c'est que ça doit pas être si important. Alors qu'en fait, c'est particulièrement grave. Ça a perturbé toute leur vie. Et on s'aperçoit que eux, ils ont besoin d'en parler. Dernièrement, on a rencontré une victime qui n'était pas une victime de prêtre ou de religieux, mais d'un membre de sa famille. Juste de l'écouter, elle nous a dit merci de me reconnaître le statut de victime. Bon, déjà, il y a une... Et puis, parce que la compréhension sur vraiment le fait de vie brisée est essentielle. Et alors, pour nous catholiques en plus, sur la question de l'accueil et sur la question du lien spirituel qui est cassé. Donc, dans les paroisses, bientôt à l'ensemble paroissial des Minimes, entre autres, il y a des rencontres qui sont faites sur ces questions et il y a parfois des témoignages de victimes.
Pour le diocèse de Toulouse, donc en mai 2016, le diocèse était un peu dans la tourmente puisqu'il y a eu la révélation par Mediapart de la situation de Dominique Spina, qui était prêtre dans ce diocèse en exercice, qui avait été condamné pour des faits de pédocriminalité, qui avait purgé sa peine de prison, mais qui avait à nouveau des responsabilités paroissiales. Suite à cela, en avril, donc à une cellule, la cellule permanente d'écoute, une cellule permanente d'écoute nationale, donc a été créée, et le diocèse de Toulouse en mai 2016. A lui-même lancé sa cellule d'écoute. Vous en donnez, on va dire, quelques résultats. Avant ça, rapidement, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est une victime, qu'on appelle le numéro qu'on redonnera à la fin de l'émission. En quoi consiste cette cellule d'écoute ?
Alors, cette cellule d'écoute, elle est d'abord un premier lien et un premier contact. Chez nous, elle est composée de 3 laïcs, 2 hommes et une femme, pour que les personnes en face se sentent bien il y a une diversité pour que les personnes se sentent bien avec la personne avec laquelle ils vont parler. Ils vont avoir un premier entretien téléphonique qui peut se poursuivre par des rencontres physiques, entre guillemets, hein, enfin des rencontres dans des locaux si la personne le souhaite. Et puis il y a une écoute, il y a un travail d'alerte aussi si jamais c'est des révélations sur des personnes qui sont encore vivantes, donc avec des nécessités de signalement ou autre. Et puis il y a la proposition de rencontrer Monseigneur Le Gall ou d'autres personnes s'ils le souhaitent. Alors il y a des victimes qui ont des attitudes très différentes. Certaines en fait écrivent juste pour signaler, pour dire, ne souhaitent pas rencontrer un prêtre ou un évêque. D'autres, au contraire, sont en attente d'un chemin spirituel. Alors, parfois, la cellule d'écoute les guide vers des lieux spirituels où pourraient être accompagnés, ou alors la rencontre de psychologues ou autres.
À propos des résultats, je mets le mot entre guillemets, qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans le numéro donc du mois de mai, vous faites ce bilan. 24, la cellule d'écoute aurait été saisie 24 fois, et vous détaillez 7 dossiers concernent des prêtres décédés, 2 dossiers concernent des prêtres vivants, un cas d'agression sexuelle sur majeur a été classé sans suite, et le reste, en fait, ce sont des signalements qui concernent des abus sexuels. Je vais vous laisser apporter les précisions. Est-ce que vous pouvez nous faire un point un petit peu précis sur les résultats ?
Alors, sur ces 24 dossiers, on voit qu'il y en a une grande partie qui ne concerne pas des abus sexuels.
Voilà, 9, donc c'est ça.
9, ou qui concerne des prêtres de 16 ou religieux. Donc là, systématiquement, les affaires sont transmises, c'est-à-dire que Monseigneur Le Gall informe les évêques ou les supérieurs des personnes qui sont mises en cause. Et puis, à charge aux supérieurs, au diocèse, de faire les signalements et, bien entendu, d'écouter les victimes, de les accompagner et de prendre des mesures de prudence. Si c'est nécessaire. Alors, souvent, on le voit aussi, ça concerne des prêtres décédés, parce que la réalité, c'est que je pense que c'est un mécanisme de protection des victimes. Et bien, pendant longtemps, les choses sont enfouies au fond de leur mémoire et
ça
au fond de leur cœur.
Bien au-delà du délai de prescription.
Bien au-delà, ça ressort fort. C'est une explosion et peut-être aussi une compréhension de chemin de vie qui sont vraiment très durs. Et puis, on a assez peu de cas de prêtres vivants. Alors, il y a plusieurs explications possibles à ça. La première, c'est ce fameux temps de révélation, ou en tout cas de prise de conscience et l'envie d'en parler. Et puis, il y a peut-être aussi le fait que il y a des endroits où ça a été plus ou moins géré avec régularité, et en tout cas dans notre diocèse, il y a eu des cas anciens mais qui ont été examinés par la justice civile, enfin pénale et canonique, il y a plusieurs dizaines d'années.
Quid des deux dossiers? Vous disiez que deux dossiers concernent des prêtres vivants. Est-ce que vous pouvez juste apporter une ou deux précisions sur les procédures en cours?
Ce sont deux dossiers. La justice a examiné les cas, mais les a, dans les deux cas, déclarés prescrits. Il y a eu des signalements qui ont été faits à la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Il y a des enquêtes canoniques du coup qui sont menées. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une procédure ecclésiastique?
Alors, il y a des procédures canoniques qui ont été exercées dans les deux cas.
Pour finir, Capucine Melville, qu'est-ce que va changer ce motu proprio, puisque c'est l'objet de cette émission, Vos Estis Lux Mundi? On a compris, d'après ce que nous disait Nicolas Sonnez au début de l'émission, qu'en fait les métropolites, donc Monseigneur le Gall, vont avoir une charge beaucoup plus lourde, que beaucoup de dossiers ne remonteront pas à Rome. Donc qu'est-ce que ça va changer? Et puis est-ce qu'on a les troupes en fait pour faire face ici à Toulouse à cet éventuel afflux?
Alors, pour une première question qui est de la dénonciation, en tout cas pour le diocèse de Toulouse, ça s'est systématisé, hein, automatiquement, il y a un signalement pénal, enfin au procureur, et puis une enquête préalable canonique qui est menée. Donc sur ce volet-là, ça permet d'appuyer une intention, mais en tout cas une réalité qui est déjà le cas dans le diocèse de Toulouse. Après, sur la question des évêques et des supérieurs qui concernent Monseigneur en tant que métropolite. Pour l'instant, fort heureusement, on n'a pas eu de cas. Si demain, ça devait l'être, Monseigneur très certainement dégagerait les forces qu'il faut. Après, la réalité, c'est que les forces de l'Église méritent d'être renforcées sur ces questions-là.
Oui, vous faites bien apporter cette précision. Donc, c'est quand ça concerne les évêques ou les supérieurs de communauté. Peut-être la toute dernière question, c'est qu'on a aussi entendu dire que tous les diocèses n'avaient pas les moyens, en fait, d'avoir leur propre cellule d'écoute, faute aussi de troupes ou de moyens de les financer, on imagine. Et que dans ce cas-là, c'était renvoyé à l'échelon supérieur. Donc, on peut imaginer, nous, dans notre province ecclésiastique, que certains diocèses n'aient pas, en fait, leur cellule d'écoute et renvoient à Toulouse. Est-ce que c'est déjà une réalité? Est-ce que c'est le futur de votre cellule d'écoute à Toulouse?
Alors, c'est pas une réalité parce que la plupart des diocèses, quand ils n'ont pas de cellule d'écoute en propre, ont mutualisé avec d'autres diocèses. Par ailleurs, chez nous, je tiens à préciser que les membres des cellules d'écoute sont intégralement bénévoles. Donc, il n'y a pas de coût lié d'un point de vue structurel à cette cellule d'écoute. Et je crois qu'il faut vraiment les en remercier parce que c'est une tâche ingrate et difficile, et spirituellement très lourde à porter, et qu'ils exercent avec beaucoup de générosité. Donc voilà, est-ce que à terme il peut y avoir des choses qui sont menées en commun? Peut-être, on l'exclut pas, mais je crois que c'est vraiment la volonté de chaque évêque, c'est la réalité du terrain, c'est la réalité aussi des offices canoniques qui sont liés à ces questions-là.
Eh ben merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église. Merci à Monseigneur Luc Crépy et à Nicolas Senez. On aura l'occasion de reparler de ces questions. Cette émission était réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.